Au Capi Service, une émission au service des populations. Des questions, suggestions et problèmes qui vous touchent, qui sont au rendez-vous tous les jours du lundi au vendredi. Au Capi Service, une adresse pour trouver solution à vos préoccupations. Au Capi.
Mutation de voix, mutation de la voix, je veux dire, pousse des poils, multiplication des boutons, apparition des seins chez les filles, bref, la puberté commence à faire ses premiers effets et il est temps de préparer votre enfant au changement que cela va entraîner. Les questions se bousculent dans leur tête, dans la tête des jeunes gens, les adolescents, bon disons des pubères, mais les parents préfèrent garder silence à cause des tabous. Des tabous. Or, il est important d'assurer une bonne éducation sexuelle à ses enfants, selon les experts. Alors, comment s'y prendre et quelles sont les conséquences si on ne le fait pas à temps et si on ne le fait pas bien, qu'est-ce qui va arriver? Eh bien, réponse à toutes ces questions avec Dr. Gabriel Ntsakalar et bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chargé du programme VIH et éducation santé à l'UNESCO. Alors, comment, dites-nous docteur, comment assurer, pourquoi est-il d'abord important d'assurer une éducation sexuelle aux enfants?
Merci beaucoup. Nous devons savoir que c'est très très important d'assurer cette éducation sexuelle parce qu'en fait, de prime abord, je dirais que l'éducation sexuelle fait partie du droit de l'enfant. Et vous savez que des pays comme le nôtre, nous avons également ratifié le droit de l'enfant. Donc, de la même façon que nous devons donner à l'enfant de la nourriture, de la même façon que nous devons scolariser l'enfant, et de la même façon aussi que nous devons lui assurer l'éducation de manière globale, et l'éducation à la sexualité fait partie de cette éducation pour finalement prévenir toutes les conséquences qui peuvent arriver en rapport avec la situation de la sexualité si elle est mal négociée. Alors, tout à l'heure, vous avez dit que à l'âge de la puberté, il y a toutes ces manifestations qui se font. Et ce qu'il faut comprendre par là, c'est qu'en matière de sexualité ou en matière d'attirance vers les questions sexuelles, les enfants ne les font pas d'eux-mêmes. Parce que vous imaginez que quand ils ont 5 ans, quand ils ont 6 ans, ils ne pensent pas vraiment à ces choses. Mais c'est à partir d'un certain âge. Et qu'est-ce qui se passe? C'est parce qu'au niveau de leur corps, il y a des transformations biologiques, physiologiques qui commencent à se faire à travers l'action de ce qu'on appelle les hormones qui se déclenchent à un certain moment et qui vont agir au niveau de ce qu'on appelle les organes cibles, notamment les seins, les ovaires, le bassin. Et tout cela amène l'enfant a commencé à développer quelques modifications, d'abord sur le plan physique, vous l'avez si bien décrit, et sur le plan psychologique et psychique, il y a ces désirs-là de
découvrir. Et même sur le plan comportemental.
Et sur le plan comportemental, j'allais en venir. Et donc, et là, ça demande finalement un certain accompagnement de tous ces processus de la part des parents, et c'est ce qui rentre dans ce qu'on appelle éducation sexuelle.
Alors d'ailleurs, il y a quelqu'un qui nous a dit que généralement dans les cybercafés, la plupart des jeunes qui viennent là-bas, c'est pour voir des films ou des images pornographiques. Alors, on comprend que la sexualité les attire énormément.
Justement, c'est ça en fait le paradoxe autour de cette période. Il y a sur le plan physique, sur le plan social, sur le plan psychique, ces troubles liés à la puberté, et sur le plan, socio-communautaire, il y a le silence des parents, le silence des adultes, et sur le plan environnemental, les enfants sont sujets à sont l'objet de des informations contradictoires et ils se communiquent des informations qui ne sont pas toujours vraies et ils vont à la recherche des informations auprès de sources parfois qui ne sont pas trop crédibles. Vous parlez de la pornographie. La pornographie n'est pas la source idéale pour une éducation sexuelle. OK? Et en plus de ça, voyez l'environnement dans lequel les enfants évoluent aujourd'hui. Ils aiment la musique, ils adorent la musique. Mais la plupart de nos artistes, nos grands artistes, au moins chacun a dans son dernier album une chanson ou deux chansons qui abordent les questions de sexualité.
Qui a fait allusion à la sexualité, peut-être d'une manière voilée.
Voilà, c'est ce qu'on appelle un peu de la pornographie chantée, d'une certaine façon. Et ça amène les enfants vers ça. Regardez nos programmes télévisés. On a des séries télévisées où on parle de l'amour.
Ça attire beaucoup l'amour la jeunesse.
L'amour idyllique, ça attire la jeunesse. Voyez les clips, c'est à demi habillé, pratiquement. Et ça attire. Et Maintenant, dans les contextes où ils sont en train de subir des transformations dans leur corps, plus ce qu'il y a au niveau de l'environnement, donc ils sont plus poussés et tentés à aller vers le sexe. Et là, malheureusement, l'éducation, c'est-à-dire la pédagogie qui devait aborder ces questions avec eux, ces questions de relations interpersonnelles, pour finalement mieux les accompagner dans l'âge adulte, ça fait défaut.
Alors docteur, qui doit assurer cette éducation sexuelle?
Bon, de manière générale...
Est-ce à l'école, est-ce c'est les parents, à l'église, qui est censé...
L'unité des bases, c'est d'abord la famille. Mm-hmm. En principe, l'éducation sexuelle, comme j'ai dit, qui fait partie du droit de l'enfant, et donc doit commencer en milieu familial. Donc, le parent sont le premier responsable de l'éducation sexuelle des enfants. Secondairement, c'est le milieu de l'enseignement. Un milieu propice pour l'éducation parce que c'est déjà là où les enfants vont apprendre des notions de manière générale. Mmh. Et troisièmement, il y a la communauté. Les adultes, en principe, ont les devoirs, en tout cas chacun dans son domaine de compétences, de pouvoir informer les jeunes de façon à les protéger, les encadrer contre les abus de ce que peut être une sexualité mal négociée ou irresponsable.
Mais le problème, c'est que les tabous qu'on a dans notre société, docteur, ça c'est un problème.
Justement, c'est l'intérêt d'aborder cette question. Parce qu'en fait, les tabous constituent vraiment la pesanteur majeure qui fait que cette éducation n'est pas là. Mais à part les tabous, il y a aussi... le manque de connaissances aussi des parents. Mmh. De parents qui ont vécu sous le joug de ces tabous n'ont pas eux-mêmes bénéficié de cette éducation sexuelle et donc parfois n'ont presque rien à dire aux enfants. Mmh. Alors, le contraste, c'est qu'aujourd'hui, les enfants, avec l'outil comme l'Internet, avec les médias sociaux, parfois sont plus enclin à obtenir des informations de par eux-mêmes, ce qui fait un déséquilibre. Mmh. Mais l'autre aspect, c'est le refus, les dénis de l'information, le refus du parent de penser que les enfants ont besoin de cette information. On s'est dit, peut-être qu'à un certain moment, ils apprendront eux-mêmes, alors qu'il n'y a pas un processus qui s'est fait de manière spontanée. Mmh. L'apprentissage s'est fait de manière tout à fait accompagnée. Et donc, c'est tout cela qui fait que, bon, aujourd'hui, on a des déficits. Bon, maintenant, il faut combler ces lacunes. Il faut que le parent arrive à aborder ces questions. Quand je parle de parent, ce n'est pas la maman.
C'est d'abord
seule.
Le papa.
C'est un problème de couple.
De couple.
C'est-à-dire que la maman, le papa, tous les deux ont l'obligation de l'éducation sexuelle des enfants.
Mais les papas ont souvent tendance à envoyer les filles vers leur maman. Allez voir votre maman, bon, viens, maman, tu t'occupes des enfants, sur ces questions-là.
C'est la rentrée dans ce que nous appelons aujourd'hui les stéréotypes du genre. Qui vous a dit que cela doit être seulement l'apanage de maman? Surtout quand il s'agit de parler aux filles. Mmh. Parce que le jour où on vous annonce à la maternité que votre femme vous a donné une belle fille, vous êtes tout content. Oui. Et vous dites à tout le monde, ah, j'ai une très belle fille. Et vous l'accompagnez à l'école maternelle, vous l'accompagnez pendant qu'il évolue. Et le jour, elle atteint la puberté.
La puberté, oui.
Brusquement, vous arrêtez et vous dites, non, ça, cette matière-là, c'est pour la maman. Non. L'éducation sexuelle, ça doit être faite par les deux parents. Évidemment, chacun avec sa sensibilité, sa manière de le faire.
Hein? Bien, on va y revenir, docteur. Nous avons déjà trois auditeurs en ligne. Vous voulez également participer, appelez-nous au 081-890-63-94.
À Boutembo, sur 92.9 FM.
Comment assurer aux enfants une bonne éducation à la sexualité? Gabriel Betou, vous êtes à Kalima, bonjour.
Bonjour, monsieur Jésus Daniel Kachamay, bonjour aussi à notre invité. Et bonjour à tous les auditeurs de Kalima qui ont la prière de monsieur. Oui, trois petites questions à poser à notre invité.
Oui.
La première, votre enfant vient de vous dire, non papa, aujourd'hui au niveau du lit, quand je suis endormi, je me suis rêvé que je suis à côté avec une femme. Et au niveau du sous-vêtement, il voit quelqu'un qui dit. Comment on peut aider cet homme? Maintenant, la deuxième question concernant une femme, une petite fille qui vient de régler pour la toute première fois, elle voit que c'est grave pour elle. Maintenant, elle entre papa et maman. Qui parmi elle peut l'aider? La troisième, les premières règles d'une jeune fille, comment on peut l'appeler. Je dis et je vous remercie.
Merci, Gabriel. Corneille Samouane, vous êtes à Kambove. Bonjour.
Bonjour, Monsieur Jody Kachama.
On vous écoute.
Bon, moi, je voulais dire ceci. Moi, je pense que l'éducation sexuelle d'un enfant est, si pas impossible, trop difficile. Parce qu'on peut maîtriser l'enfant à un certain âge, et puis cela peut arriver plus tard. Comme tu dirais, quand on chasse le naturel, il revient au galop. Cela peut troubler l'enfant jusqu'à telle enceinte qu'il peut se révolter. La société nous a prouvé qu'il y a maintenant des papas qui cessent d'aimer les mamans de leur âge. Maintenant, ils descendent vers les 12 ans, les 13 ans, les 18 ans. Donc, celui qui a été plus sage dans sa jeunesse peut se révolter dans sa vieillesse. Bon, je ne sais pas si cette éducation sexuelle peut être utile ou... Bon, je sais que c'est utile, mais c'est peut-être trop difficile.
Alors, Corneille, vous dites qu'un enfant bien éduqué, au bas âge, peut se révolter plus tard et devenir, devenu adulte, il va commencer à sortir avec des petites filles, c'est ça?
Oui, c'est possible.
Bien, on va vérifier ça avec notre invité. Mavé Kisambika nous appelle des Kananga. Bonjour.
Bonjour, aujourd'hui, Kachama. Bonjour à tous les auditeurs qui nous suivent en ce moment présent.
Oui, Mavé.
D'accord, merci Jody. J'avais deux petites questions à poser à notre invité. La première, c'est de savoir quelle analyse peut-il nous faire du fait que l'on retrouve dans plusieurs familles les jeunes gens, notamment les filles, connaissent bien de l'éducation sur la sexualité, mais quel que soit cet entretien ou soit cette éducation sur la sexualité ne se permettent pas de se contenir mais continuent toujours à faire la sexualité. Et voilà la première question. Et la deuxième, autre chose, c'est que très souvent, dans plusieurs familles, les parents ont de la honte, je voulais dire, de parler éducationnellement de la sexualité à leurs enfants. Et remettre cette charge aux grands-parents ces derniers. Et je voudrais demander aussi à l'invité, est-ce que cette pratique est bonne à adopter et quelle analyse veut-il aussi faire par rapport à cette question? Je vous remercie, excellente journée, au revoir.
Merci, excellente journée à vous également. Docteur Gabriel, vous avez la parole.
Ok, merci beaucoup. Pour le premier intervenant, qui dit qu'un enfant qui fait un rêve, qu'il a été avec une femme, et puis...
Les pollutions nocturnes.
Les pollutions, et puis il rapporte demain comment l'aider. Il faut d'abord savoir que à l'âge de la puberté, qui commence généralement autour de 12 ans chez les filles et un peu 14 ans chez les garçons, ces genres de phénomènes qu'on appelle pollution nocturne sont tout à fait fréquents et peut être considéré comme normal. Hein, c'est un mécanisme physiologique qui s'est fait et qui peut être... Donc, la première chose, c'est de rassurer l'enfant pour lui dire que c'est des choses qui peuvent être considérées comme étant normales et que au fil de temps, il va grandir, il va comprendre comment ce genre de phénomène arrive. Et donc, là, je voudrais déjà qu'on ne puisse pas donner certaines connotations à ce genre de choses, parce que facilement, on fait les liens avec certains problèmes de société, du genre mari de nuit ou tout ça. Donc, il faut quand même qu'on arrive à rassurer l'enfant qu'une pollution nocturne, c'est quelque chose qui est accepté à l'âge de la puberté.
Alors, il parle aussi d'une fille qui vient d'avoir ses règles, qui doit s'en occuper entre les deux parents.
Bon, de manière générale, au moment où on a déjà les règles, c'est vrai, c'est tout à fait légitime qu'on en parle à la maman, qui est mieux préparée, même sur le plan psychologique, à pouvoir aider. Mais bien avant, les deux pourrions bien en parler. Le papa peut aussi commencer, parce que l'éducation sexuelle, en principe, doit commencer avant la puberté. Et le tout doit être un problème de dialogue permanent à la maison. Donc, on ne doit pas seulement attendre la période de la puberté pour commencer à aborder ces questions spécifiques. Mmh. Les questions de sexualité, en principe, doivent être abordées dans un cadre général de tout ce qui s'aborde en famille. Vous comprenez?
Donc, il faut qu'il y ait un dialogue
oui,
à la
famille. En famille. Donc, quand on parle ce jour-là des questions de scolarité, des questions de sport, des questions de politique, il faut aussi qu'il y ait une tranche pour aborder ce genre de questions. Évidemment, l'éducation sexuelle doit toujours être progressive. et adapté à l'âge. Et bien entendu, tenir compte aussi de la pertinence culturelle. Hein, donc ça, c'est aussi un aspect. Donc, pour répondre, j'allais dire que bien avant, le parent, le papa, pouvait déjà avoir préparé ses filles à comprendre qu'à un certain âge, il y aura des changements. Et notamment, parmi ces changements, il y aura l'apparition des règles.
Mais il y a certaines filles dont les parents ne disent rien.
Elle
est à l'école, elle voit du sang, elle pense qu'elle est blessée,
voilà.
Elle panique.
Elle est paniquée, et parfois même, aussi à l'école, on ne comprend pas, on la renvoie à la maison, et parfois même de l'école, autrefois, on a vu des cas comme ça.
Oui.
Et donc, pour dire que c'est des choses qui devaient être comprises et être maîtrisées comme telles. Donc, pour résumer, au moment des règles, la mère peut bien assister sa fille, lui montrer comment on met une serviette et qu'est-ce qui se passe. Mais le papa peut intervenir également pour dire à la fille, bon voilà, tu es devenue une grande fille, comprenez que les choses vont commencer à s'en suivre, mais chaque mois, il y aura des bandes hygiéniques à acheter. Eh bien, interpellez-moi ou peut-être je vais vous l'offrir à chaque fois, mais rappelez-moi ça. C'est des choses qui doivent aller de soi-même en principe.
Alors, Corneille de Cambov qui nous dit, il y a certains enfants qui étaient bien éduqués, qui étaient sages encore tout petits, mais quand ils grandissent, ils deviennent des adultes, bon, ils se méconduisent, ils sortent avec des petites filles, des pédophiles, tout ça. Alors, il veut savoir qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ça.
Bon, ce que je dois dire, que tout le monde le sait aujourd'hui, que l'éducation, et c'est la base de tout. Quand on a été bien éduqué en sa jeunesse, en tout cas, on va garder deux attitudes de combat. Parce qu'en fait, le but de l'éducation sexuelle, c'est quoi? C'est donner des connaissances d'abord, et qui vont finalement agir sur les compétences. Donc, sur le savoir de la personne d'abord, donner des savoirs qui vont agir sur le savoir-être et sur le savoir-faire. Et là, quand on a bien assimilé, parce qu'en matière d'éducation sexuelle, il faut que les informations qui sont données soient des informations correctement, scientifiquement correctes, j'allais dire.
Oui.
Et donc, une fois qu'on a ça, on va finalement intérioriser certaines notions pour que finalement, ça puisse accompagner toute sa vie et le moment venu qu'on puisse prendre des résolutions ou des comportements qui soient adaptés. Mais ce que je dois dire, il est difficile d'éliminer tout ce qui peut être dérive. Mais l'éducation sexuelle doit avoir un objectif, c'est notamment d'abord limiter la désinformation, mais limiter certaines choses en termes de dégâts. Hein. Donc, sans éducation, les jeunes gens vont se comporter de n'importe quelle manière, et là,
c'est la débauche.
C'est la débauche. Mais avec l'accompagnement d'une éducation, on limite, on sait dire à l'enfant ce qu'il doit faire, ce qu'il ne doit pas faire, et ça résonne toujours. Alors, maintenant, ce que je dois dire, c'est il faut que le parent adopte certaines stratégies, peut-être ce dont je vais parler. Il faut déjà apprendre de l'épargne, en dehors des questions de sexualité, faire des compliments aux enfants, responsabiliser les enfants. Dire par exemple à son enfant, regarde, tu es ma fille aînée, je compte sur toi, je veux que tu sois une femme de distinction quand tu vas grandir, alors tu n'as pas droit à l'erreur et tu dois comprendre qu'une vie de débauche, une vie des hommes, de ceci, ça ne peut pas t'avancer. Et là, quand ça se dit déjà de manière générale, ça reste dans le subconscient. Et même quand, une fois à l'âge adulte, elle veut faire, mais il pensera toujours à ce que son père lui disait. Et même pour les garçons, tu es mon garçon, tu dois être exemplaire, tu dois finir les études, te comporter comme ça et tout ça. Et c'est là, peut se cristalliser dans l'esprit et peut conditionner finalement la vie future. Mais évidemment, il y aura toujours de ratés. C'est normal pour toute équation, pour toute opération, qu'il y ait une tranche de gens qui puissent se rater, cela suite à certaines conditions, même d'ordre environnemental.
Bien. Trois autres auditeurs en ligne, des questions, des préoccupations, appelez-nous au 081-890-63-94.
Au Congo, l'économie de tous les jours, c'est l'affaire de tous. Chaque samedi à 12h30, heure de Kinshasa, Radio Okapi vous propose le panorama économique. C'est le résumé de l'actualité de la semaine. La vie des marchés, le développement des entreprises, l'équilibre du monde rural, les bonnes initiatives, une nouvelle tendance. Reportage sur le Congo qui bouge dans toutes les provinces. Le samedi de 12h30 à 13h, 30 minutes pour explorer le panorama économique de la RDC.
Comment assurer aux enfants une bonne éducation à la sexualité? Eric Kalemba, vous êtes à Kisangani. Bonjour.
Bonjour.
Quelle est votre question, Eric?
J'ai deux petites questions à poser à l'invité.
Oui.
La première, je demanderai à notre invité quel conseil il peut donner aux parents qui cachent à leur fils ou fille.
Ouais, qui cachent quoi?
Bon, parce que parler du sexe ici en Afrique et surtout en particulier dans notre pays, la RDC, parler du sexe, c'était tabou aux enfants.
Oui. Alors, donc, bien, merci pour la question. Freddy Kabamba de Lubumbashi, bonjour.
Oui, bonjour, la radio Rafi.
Oui, Freddy.
Ça va, moi, j'ai des questions à poser à notre invité.
Oui.
Et je voulais savoir, est-ce que c'est permis, les parents, de dormir avec les enfants dans une même chambre, les enfants qui sont dans l'âge de puberté? Parce qu'il y a d'autres parents qui n'ont pas des moyens, sont des locataires. Maintenant, il n'a pas de moyens, il est locataire, il a peut-être des chambres, peut-être et une seule chambre. Maintenant, il dort avec les enfants dans une même chambre, peut-être des enfants qui sont à l'âge de liberté. Deuxième question, est-ce que c'est permis les parents de regarder la télévision avec les enfants, des films sans limite, parce qu'il y a d'autres parents, si tu le trouves dans un télé avec les enfants, il les regarde n'importe quel film. Mais c'est même d'autres films qu'on aimait dans d'autres médias périphériques qui viennent à l'étranger. Ils les regardent toujours comme ça avec les enfants, surtout les chansons ici. On met pour des petites filles les chansons, des arabes et tout comme ça. Reste, c'est permis. Un parent de regarder comme ça.
Merci.
Papa, j'ai dit, je te remercie.
Merci, Freddy. Clément Mouya, vous êtes en Boujimaï. Bonjour.
Oui, bonjour, Jody. Bonjour à l'invité.
Bonjour.
On vous écoute.
Je voulais poser la question à l'invité. Comment se fait-il que les animaux qui agissent par instinct parviennent à s'abstenir de rapports et ils s'approchent de femelles ou de mâles que pendant la période des chaleurs ou de la multiplication? Comment se fait-il que l'homme doué d'intelligence et de sagesse ne parvient pas à s'abstenir de rapports sexuels? De deux, je me rends compte que quand on apprend aux enfants l'éducation à la vie, c'est comme tu dirais, on est en train de réveiller les chats qui dorment. Les enfants sont gentils et une fois qu'ils apprennent l'éducation à la vie, les rapports sexuels, donc directement ils sont stimulés, ils sont excités à pouvoir pratiquer donc ce rapport-là. Qu'est-ce qu'il peut nous dire? Voilà un peu mes petites préoccupations.
Merci Clément. Bien, revenons d'abord à la question de Mavé de Kalanga qui dit il y a dans certaines familles des filles qui sont bien informées, bien éduquées sur le plan sexuel, mais ça donne toujours à une vie des libertinages. Qu'est-ce que vous pouvez lui dire, docteur? Et en plus, il parle dans certaines familles, les parents ont honte de parler de la sexualité aux enfants et ils confient cette charge aux grands-parents.
Ok. Je crois que tout au début, j'ai dit ceci. C'est pas de leur gré que les enfants s'adonnent aux questions de sexualité. Il faut d'abord comprendre qu'à cet âge-là de la puberté, il y a une modification. Il y a un effet physiologique qui s'est fait, qui arrive au niveau du corps, qui amène finalement à la découverte et à la tendance et qui révèle les libidos. Ça, c'est physiologique. Alors, c'est là où doit se trouver finalement tout l'enjeu de l'éducation sexuelle. On ne peut pas à la fois interdire à un enfant totalement quelque chose qui ne vient pas de lui, mais qui est réveillé par
naturellement,
par un besoin qui est réveillé par la physiologie.
Oui.
Et donc, c'est pour ça que je dis, tout ce qui doit être fait, c'est accompagner et canaliser pour que finalement, avec l'éducation sexuelle, on arrive, si pas à s'abstenir, mais au moins à retarder le début de l'activité sexuelle et également à diminuer plutôt la fréquence des rapports sexuels non protégés et aussi à diminuer le nombre de partenaires sexuels et aussi à augmenter finalement le moyen de protection. Donc c'est vers là que l'éducation sexuelle va tendre.
Mais Clément nous dit que dès que vous apprenez aux enfants ces choses-là, c'est comme si vous réveillez les chats qui dorment.
Justement, c'est ça, la version erronée des choses. Nous sommes des scientifiques. Partout, il n'y a eu aucune étude qui a montré que quand on parle de la sexualité aux gens, aux enfants,
on
va les réveiller. Oui. Au contraire, c'est quand on n'en parlait pas que les enfants vont se comporter de la même façon. Mmh. Une fois qu'ils sont informés, une fois qu'on les accompagne, ils sont beaucoup plus réveillés pour poser des actes avec responsabilité. C'est ça l'objectif de l'éducation sexuelle. Mmh. Je vais vous donner des chiffres. En RDC, avant 15 ans, à peu près 22% des enfants ont déjà connu un rapport sexuel. Avant 15 ans. Et entre 15 et 17 ans, c'est 60% des garçons contre 50% des filles. Et à 18 ans, 19 ans, à l'entrée à l'université, c'est plus de 90%. Ça, c'est de chiffres. Et là, ce n'est pas parce qu'on a parlé d'éducation sexuelle. Ça, c'est l'évolution normale, l'évolution observée des choses. Mmh. Maintenant, toutes ces particularités qu'on a, de gens qui ne parlent pas, qui ne font pas, c'est par rapport à ce qu'ils ont bénéficié comme bagage. Il a été démontré des recherches d'un professeur de l'université de Kinshasa qui a prouvé que dans les familles chrétiennes où les enfants sont ancrés vraiment à la chrétienté, le rapport sexuel ou le premier rapport sexuel est retardé au moins de 2 ans par rapport à la population générale. Mmh. Donc il y a quand même cet effet qui fait retarder, mais une fois qu'ils ont commencé, ils ne lâchent plus, ils continuent. Et donc, l'éducation sexuelle des effets. Mais je dois aussi dire que l'éducation sexuelle, c'est aussi, les déficits, il est partout. Ce n'est pas seulement question de pauvreté. Même dans les familles les plus nanties où on donne l'argent des poches aux filles et tout ça, on retrouve des filles qui tombent finalement enceintes parce qu'il y a ces besoins-là qui a été mal canalisé. Oui. Donc, pour dire que je m'inscris en faux contre ceux qui pensent que parler de l'éducation et de la sexualité, c'est le réveiller. Au contraire, n'est pas en parler. C'est la rue qui va s'en occuper et à sa manière. Donc ça, c'est un élément de réponse par rapport à
cette question.
Maintenant, les filles qui sont bien éduquées, qui finissent, c'est la même chose aussi. Qu'est-ce qui amène finalement l'homme à aller dans la sexualité? C'est ce que je dis. Il y a de pression personnelle qui sont liées à la pression des hormones qui arrivent, et également, il y a les questions de l'environnement, qui
l'influence
fait que
l'influencement
à l'ami, oui. C'est encore prouvé dans les études de Kinshasa, le premier rapport sexuel à Kinshasa a toujours été sous l'instigation des amis. Il y a toujours quelqu'un qui est à la base, soit l'ami du garçon, soit l'ami de la fille,
oui.
Et donc pour dire que il y a des choses qui ont été faites comme telles, malheureusement, nous ne pourrons peut-être pas faire tout pour éliminer, mais tout ce que nous pouvons faire, c'est accompagner. Parce que, au fait, je conclue par là, que l'éducation sexuelle a un objectif au niveau des jeunes aujourd'hui, c'est prévenir, notamment, toutes les conséquences aujourd'hui qui sont les grossesses non désirées, les IST et le VIH-SIDA. Mmh. Et le jeune aujourd'hui, à travers le monde, constitue à peu près 60% de l'effectif de personnes qui sont contaminées par le VIH-SIDA.
Barthélémy Mukanga nous appelle de Kananga. Bonjour.
Ouais, bonjour.
Quelle est votre question?
Ouais, merci de la parole. J'ai deux préoccupations, parce que je suis vraiment intéressé par ces sujets.
Oui.
Nous constatons au quotidien que la plupart des pratiques que nous sommes en train de vivre et en rapport avec la sexualité ou l'éducation sexuelle, on trouve que le maire, du côté des mères, il n'y a pas à déplorer parce que elles ont l'habitude de former leurs filles sur des questions sexuelles. Mais avec le père, parce que moi-même, j'ai vécu cet exemple-là, et je suis le né de la famille, mais ma petite sœur, je trouvais que la maman était en train de encadrer sur le plan sexuel, avec des notions de la sexualité, et mon père ne m'a jamais parlé de la sexualité. Alors, la question est de savoir, qu'est-ce qui fait que les mères sont très très actives pour encadrer leurs filles avec... la sexualité, donc la question de l'éducation sexuelle, mais les pères n'ont pas cette habitude-là, ils n'ont pas cette accoutumance-là de former leurs filles par rapport à l'éducation sexuelle. Et la deuxième question, je vais savoir quels sont les objectifs spécifiques de l'éducation sexuelle.
Merci Barthélémy. Bien, avant de répondre à la question de Barthélémy, docteur, il y a Freddy de Lubumbashi qui a posé la question de savoir est-ce que les parents peuvent dormir avec leurs enfants dans la même pièce. Il y a certains parents qui n'ont pas assez de moyens, qui ont une maison, une petite maison promiscuité avec des enfants à l'âge de la puberté. Est-ce recommandé ça?
En tout cas, ne serait-ce sur le plan de la commodité, sur le plan du confort de l'essence, ce n'est pas indiqué. Ce n'est pas indiqué. Idéalement, les parents devaient avoir leur chambre à eux et les filles, si on a des possibilités, chacune des filles dans sa chambre, mm-hmm. chaque garçon dans sa chambre. Si on ne peut pas, on peut regrouper les filles, deux ou trois, ou même les filles entre elles et les garçons entre eux. Bon, maintenant, le problème, il est posé. C'est un problème de pauvreté, un problème de promiscuité, de manque de moyens, oui. à l'impossible nul des tenues. Mais dormir dans la même chambre, vraiment, avec les grandes filles, c'est indécent. Mm-hmm. Peut-être au moins laisser les filles au salon, et puis, bon, mais là, chaque famille ça, s'organise comme elle peut, mais c'est quand même un grand risque de laisser une situation dans ce sens-là.
Il parle aussi des parents qui, au salon, s'installent avec les enfants en train de regarder des films avec des séquences parfois un peu pornographiques. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire, docteur?
Oui, là, c'est la dénote tout simplement de l'irresponsabilité des parents. Parce que quand on veut éduquer les enfants, on leur donne on leur fait consommer des choses qui sont agréables, qui sont utiles pour leur éducation. En tout cas, les parents devaient être les premiers qui devaient dire pas des programmes de ce genre dans la maison, surtout pas en leur présence.
Et surtout, actuellement, les filles sont attirées par les séries dont vous avez fait allusion au début, là.
Oui, c'est ça, malheureusement. Donc, le tout dépend. En principe, un parent qui est vraiment responsable et autoritaire, qui veut le bien de ses enfants, doit savoir donner une certaine orientation. Mais le tout aussi, c'est la manière de les dire. Il ne faut pas être un parent très dictatorial qui fait, c'est comment on appelle, un peu de l'éducation kuluna, tout le temps en train d'engueuler, en train de dire pas ça et tout ça. Il y a une façon. Les enfants sont d'abord des amis. Donc il faut cultiver cet environnement d'aisance entre vous, des dialogues, pour faire comprendre que voilà, ce que vous voulez suivre à la télé ne va pas vous avancer. Aujourd'hui, nous sommes vraiment dans un monde, c'est vrai, qui est sujet à beaucoup de choses, mais voilà ce que nous voulons faire de vous. Que vous soyez des femmes ceci, que vous soyez des hommes comme ça et tout ça, je ne pense pas qu'un programme comme celui-là, ça pourra... Alors je vous mets quand même devant votre responsabilité, parce que tout le temps nous ne serons pas là à la maison, nous les parents. Mmh. Mais intégrer sans la tête qu'une série dans ce sens-là qui n'apporte rien... Autant aller chercher une information ailleurs, autant aller chercher tout ça. Et progressivement, quand ça devient une matière, quand ça devient une routine en famille, il va de soi que les choses vont changer. Mais il faut les commencer plus tôt. C'est pas à 14, 17 ans que vous allez commencer au moment où les racines de la rébellion ont déjà commencé à...
Ouais. D'ailleurs, c'est la question de Moïse Lambert de Kindou qui veut savoir à quel âge parler de la sexualité aux enfants.
Justement, c'est ça. Les études ont montré que l'âge de la puberté commençait entre 12 et 14 ans. L'âge de premier rapport sexuel, c'est autour de 15-16 ans. Et donc, il faut maintenant voir, par rapport à ces deux éléments, quand commencer. Moi, je pense qu'il faut commencer avant même la puberté. Ça, c'est pour préparer tout le changement qui pourront arriver par la puberté. Donc, à 10 ans déjà, on commence à évoquer les modifications futures, les seins qui vont changer, la forme du bassin qui va arriver, le poil qui vont apparaître. Comme ça, l'enfant sait déjà. On discute avec lui de l'anatomie, des modifications, de tout ça. Mmh. Il doit comprendre une grossesse, c'est quoi, comment ça arrive, un peu tout ça. Ça, on le prépare.
Mais il y a certains parents qui disent aux enfants, non, attention avec les garçons, disent aux filles surtout, hein, faites attention aux garçons, là, sinon vous allez tomber.
Le colo, banika, bosoko, simbi mobali. Et son mobali, simbio, osuizé. Ça, ce n'est pas une meilleure approche. Parce que l'enfant ne comprend rien de tout ce que vous lui dites. Oui. Il faut aller progressivement. À cette période-là, il faut dire, voilà de quoi est constituée une femme. Quelle est la différence entre un garçon et une fille? Et comment les choses peuvent bien évoluer? Comment on pourra être attiré à un certain moment? Et puis, une fois que la puberté est là, les premières règles sont là, on l'accompagne. Et puis maintenant, on commence les questions liées aux conséquences d'un rapport sexuel. Parce que là, on sait déjà que on est vraiment à la période chaude. Dire clairement qu'un rapport sexuel va vous amener à ceci. Une grossesse va vous amener à des infections. Les infections ont des conséquences sur la maternité prochaine, future, pardon. Vous dire, par exemple, que les IST, c'est un terrain qui prépare au VIH. Dire, par exemple, qu'une grossesse va vouloir chercher un avortement. Et un avortement a des conséquences. Et donc, vous devez comprendre que les garçons y viendront. Et vous, vous serez attiré vers les garçons. Mmh. Mais attention, vos relations doivent être des relations tout à fait saines. Parce que ça va être basculé vers des rapports sexuels. En tout cas, les garçons vous amèneront là-bas. Et donc, vous devez savoir comment vous retenir par rapport. C'est des choses qui doivent commencer plus tôt et dans l'ordre normal des discussions en famille. Il n'y aura pas de gêne parce qu'on avait déjà commencé à aborder les questions et puis on continue. Et là... Une fois de plus, pour aborder les derniers, le papa est toujours depuis un certain temps, en tout cas, en retrait par rapport à ça.
Oui.
Et là, nous voulons encourager les parents à prendre les devants. On ne va pas laisser ces questions rien que sous la responsabilité de maman.
Ou aux grands-parents, comme à Kananga.
Ou encore aux grands-parents. Oui. C'est vous, le papa, chef de la famille, qui devez prendre deux responsabilités pour donner les orientations sur ce que doivent devenir vos enfants. Et apprenez à les accompagner, apprenez à demander. Il y a des filles, on va en parler peut-être une autre prochaine fois,
oui,
qui connaissent des règles douloureuses. Mais c'est des moments où elles ont besoin d'être accompagnées en termes d'assistance. Les mamans doivent le faire, mais les papas aussi doivent à un certain moment tapoter sa fille pour lui dire, écoutez, je sais que mais ça va passer, je t'amène ceci, est-ce que tu as besoin de quelque chose? Le frère, pourquoi pas? Et assister leurs sœurs qui sont en train de passer ce genre de moments, ça doit être une ambiance tout à fait familiale. Et même quand il y a répartition des tâches de ménage à la maison, les sœurs qui savent que celle-là, elle est en train de vivre ces moments de règles douloureuses, on la laisse un peu, on va faire ses tâches pour qu'elle puisse. Ça doit être normal, ça va aller de soi.
Bien, merci docteur Gabriel Sakala, chargé du programme VIH et éducation santé à l'UNESCO. Merci d'avoir répondu à notre invitation et à la prochaine.
Merci beaucoup.